les podcasts du Rond-Point. Amine Raled, responsable du comité de lecture du Théâtre du Rond-Point, dialogue avec des artistes emblématiques du spectacle vivant. Scénographes, metteurs en scène, comédiens et autres évoquent les éléments essentiels de leur parcours et de leur univers. Pour ce nouvel épisode, rencontre avec Daniel Pénac, écrivain aux multiples facettes.
Bonjour Daniel Pénac.
Bonjour Amine.
Puisqu'on y est toujours et pour quelques temps encore, qu'est-ce que vous inspire cette année 2020 ? Cette drôle de période. Et vous la vivez comment ?
Je confine. Et là, je confine avec ma femme et deux comédiens napolitains. Et l'un des comédiens napolitains était tout à fait déprimé il y a une semaine. Il tirait une tête de deux pans de long. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe, Paco ? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête ? Il me dit, tu sais, tout ça, ça me déprime, ça me fait peur. Je lui dis, mais qu'est-ce qui te fait peur ? Il me dit, mais c'est la guerre et je n'entends pas le bruit des bombes. Voilà ce que c'était pour lui, la Covid, le silence, la fin de toutes les activités. Ce qui le déprimait, c'est que c'était la guerre et qu'il n'entendait pas le bruit des bombes.
Est-ce que parce que peut-être que le président l'a dit, du coup il a totalement absorbé le...
Ah oui, il a absorbé le... Non, je crois que, tu sais, cette cessation des activités, c'est comme si une foule courait en plein champ et s'arrête tout d'un coup de courir dans une position, comme paralysé. Et à la longue, ça lui portait sur le système, ce qui est bien légitime.
Vous concernant, est-ce que ça vous travaille d'une façon ou d'une autre, comme ça, vous ressentez, on parle parfois à des personnes qui disent, en fait, justement, la chose terrible, c'est que parfois, il y a des sensations qu'on perd, celles parfois du temps, certaines sensations comme ça qui sont totalement liquéfiées avec...
Non, mais moi, j'ai une position privilégiée, je suis romancier, donc je suis presque confiné par nature, quoi. Les semaines les plus productives sont de toute façon celles où je bouge le moins. Donc vraiment par nature, par ma propre activité, je suis contraint à l'immobilité. On n'est pas non plus dans un studio, c'est assez grand. Donc non, ce qui est étrange, c'est l'atmosphère générale, avec les prises de position... pour le masque, contre le masque, pour le vaccin, contre le vaccin. La France ne fait jamais oublier qu'elle est un pays où on s'engueule, quel que soit le sujet, quelle que soit la situation, quel que soit, il faut qu'il y ait du débat, pas de l'engueulade ou du débat.
Au Théâtre du Rond-Point, vous avez connu la scène pour la première fois, poussée ou menée par Jean-Michel Ribes il y a 15 ans. Même si vous avez auparavant écrit des textes de théâtre, je pense personnellement au sixième continent. Puisqu'avec vous, on ne fait pas les choses de façon convenue, vous avez commencé au théâtre par la fin en disant merci. Locution réservée en principe à clore une rencontre ou un spectacle ou un meeting. Est-ce qu'on peut dire quelque part que ce contre-usage résume en quelque sorte votre rapport au théâtre ?
Oui, merci, c'est un mot très intéressant parce que il signifie l'adhésion et le refus, l'affection et la condamnation. Je vous dis merci Amine, merci, vraiment merci. Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que c'est que ce mot ? À quoi sert-il ? Ou alors si je dis merci Amine, merci, et que j'ajoute vous êtes remercié. On est... Donc, le mot en lui-même fait que j'avais écrit ce long monologue d'un type qui... Un artiste, on ne sait pas exactement si c'est un écrivain, un compositeur, un sculpteur, on ne sait pas ce qu'il... Mais à la fin, visiblement, il est remercié pour l'ensemble de son œuvre, ce qui est déjà mauvais signe. Moi, quand on me remercie pour l'ensemble de mon œuvre, évidemment, je trouve que ça sent le sapin. Et alors, il est remercié pour l'ensemble de son œuvre, et il débarque pour faire un discours de remerciement vis-à-vis de ce remerciement. Il est primé pour... Et il croit que... Enfin, visiblement, il y vient un peu à la légère. Il est pris par la complexité du mot la complexité du genre du remerciement. Il s'emberlificote dans les contradictions inhérentes au mot lui-même. Et ça fait un monologue que j'ai donné à Jean-Michel en lui disant, si vous avez des comédiens qui veulent jouer ça, c'est pour vous. Et il me dit, non, mais lisez-le-moi. Alors, j'ai commencé à lui lire, il me dit, mais c'est vous le comédien. Et c'est comme ça qu'il m'a flanqué sur scène. Voilà. Qu'il a mis ce spectacle en scène et que je suis monté pour la première fois sur une scène de théâtre.
Puisque vous avez joué sur scène, vous ne pouvez pas échapper en toute logique à ce que vous soyez désigné comme comédien, en plus d'être écrivain. Ma question, quel comédien est Daniel Pennac, selon Daniel Pennac ?
Ah, compliqué. Mais d'abord, j'ai déjà été sur une sorte de scène pendant presque 30 ans. J'étais prof, c'est-à-dire exposé à des regards. Exposé à des regards, exposé à des écoutes, exposé à des appréciations, exposé à d'éventuelles rigolades, etc. Les professeurs qui sont souvent d'anciens bons étudiants ne savent pas qu'il y a presque une contradiction entre le fait d'apprendre et de comprendre, la joie très solitaire d'acquérir du savoir, d'augmenter sa compréhension, tout ça, ça c'est une activité extrêmement solitaire et satisfaisante. Et ensuite la transmission, quand on devient prof, la transmission c'est tout à fait autre chose, c'est un métier d'exposition absolue. Évidemment, on se garde bien d'en prévenir les étudiants qui veulent devenir prof. On se garde bien de leur expliquer que le métier de professeur est radicalement le contraire de celui d'étudiant. Parce qu'on passe de la solitude de la compréhension à l'exposition totale dans la transmission. Et moi, en plus de ça, j'avais affaire à des enfants en difficulté ou grande difficulté scolaire. Il y avait un travail qui était assez proche du travail de comédien. Il fallait d'abord les désangoisser, par exemple les faire rire. Je me suis employé à ça. Ensuite, les concentrer sur l'établi, quoi. Les concentrer sur ce qu'ils avaient malgré tout à acquérir. Et là, je devenais un autre type de comédien. C'est un rôle très, très varié, le rôle de professeur. On y fait à peu près tout, à la fois Harlequin, Taliban et le commandeur. Enfin, on est tout à la fois. Et du coup, de ce point de vue, l'exposition ne m'a pas fait tellement peur. L'exposition au public ne m'a pas fait tellement peur. Ce qui m'a foutu la trouille, les trous de mémoire, choses comme ça. Les choses presque physiques, quoi, les accidents physiques. Alors, pour ne pas avoir de trous de mémoire, j'ai multiplié les italiennes, mais je l'ai multiplié à un point incroyable. J'ai passé mes journées entières, presque mes nuits, à réciter le texte. Ce qui est un gros inconvénient. Parce qu'après, quand vous vous trouvez sur scène, vous possédez tellement votre texte que vous avez tendance à l'automatiser, quoi. Il y a quelque chose qui est... Donc il faut reprendre du recul pour se réapproprier le texte comme quelque chose à dire et pas à réciter, à créer et pas à restituer.
Justement, dans votre texte « Mes italiennes », qui est édité dans le même volume que le texte « Merci », vous racontez de façon émouvante et tellement juste la perspective de monter sur scène que vous avez vécu comme un cauchemar obsédant. Et vous en avez tiré des dialogues, de mon point de vue, au moins aussi réjouissants que ceux de Platon, à la différence que les vôtres, il y a pas mal d'autodérision et très ironique. Parce qu'il y a une forme de dialectique, justement, d'interrogation intérieure, toutes les questions qui vous traversent. Est-ce que depuis tout ce temps, vous êtes remonté sur scène plusieurs fois, vous traînez toujours cette même peur ?
Il n'y a pas 36 types de peur, en fait. Il n'y en a qu'une qu'on pourrait résumer par un concept très large qui est l'incarnation du texte. Un type arrive sur une scène, il a un texte à dire, il le dit. En plus de ça, en l'occurrence, j'étais seul sur scène. Très vite, il capte une écoute ou non, capte des regards ou non, il voit des visages s'éclairer ou non. L'incarnation du texte, elle est très facilement reconnaissable en automne. par exemple. En automne, là, par exemple, dans les jours qui vont suivre, les gens, si les théâtres sont rouverts, les gens vont venir, vont tousser, ils vont se moucher, leur corps va parler, ils auront beau essayer de le contraindre. Et puis, un comédien débarque et leur dit un texte. Et l'incarnation du texte se sent, mais très concrètement, parce qu'on ne tousse plus, on ne se mouche plus, on ne bouge plus. Il y a un résultat physiologique, et ça, c'est effectivement dû au fait que les gens entrent, captent, ingèrent le texte. Voilà, c'est ça. Le texte s'incarne chez eux, en eux, et le comédien n'est pas venu pour rien. Et quand ça ne s'incarne pas, quand la toux continue, ça devient une épidémie, le comédien ne se dit même pas qu'il est mauvais. Il voit bien que ça cloche, il voit bien que ça ne marche pas. Mais quand un texte ne s'incarne pas, c'est comme si tout d'un coup sur scène, vous n'étiez plus personne. C'est-à-dire que vous ne signifiez rien. Ce n'est pas que vous soyez mauvais. Vous ne signifiez rien. Vous n'êtes là pour rien. Mais c'est exactement comme un prof dans sa classe. Ça, c'est une expérience qu'il suffit de faire quand on est prof en se couchant à 4 heures du mat. Tu te couches à 4 heures du mat et que tu arrives dans ta classe à 8 et que rien ne s'incarne quand tu t'adresses aux enfants. Effectivement, la sensation, c'est de perdre en existence, quoi. On n'est plus qu'une fonction, c'est-à-dire rien. Fonction, quand elle n'est pas habitée, c'est rien. Cette terreur presque unique que j'avais.
Jacques Bonnafé m'a confié avoir choisi le métier d'acteur, avec l'immense mérite qu'on ait aujourd'hui, pour tenter de réparer un premier échec qui remonte à l'enfance. Quand elle est montée sur un tabouret pour déclamer un poème, et s'est effondrée de ne pouvoir juste pas tenir son petit public familial. J'ai lu quelque part que vous avez eu des démêlés avec la double inconstance de Marivaux.
Ces rôles de Marivaux, qui sont les rôles intermédiaires, sont les plus difficiles à tenir. C'est-à-dire, tous les puissants sont des laborantins. Hein, c'est comme un théâtre expérimental. On flanque deux ou trois observateurs, l'aristocrate, comme ça, qui mènent des expériences, soit sur des jeunes gens sur une île, soit sur un valet. Et ces rôles d'observateurs sont très difficiles à tenir, surtout pour un comédien. Ça, j'ai fait ça, j'avais 18 ans, c'était complexe, c'est très délicat.
Ça vous est resté ce souvenir, parfois quand on s'attaque à une pratique comme ça,
hein? Oui, non, c'était lié quand même à l'âge, beaucoup à l'innocence. L'innocence de l'âge, la complexité du texte, de la situation par rapport au gamin qui a à dire ça et qui se dit merde, comment je vais. Évidemment, il manque de bouteilles, quoi.
Malgré vos réputations, j'ai ressenti que vous avez un lien profond au théâtre, une observation très affûtée de l'art du comédien. Quelles sont vos attaches au théâtre, comme ça, profondément? Qu'est-ce qui vous lie que moi, je trouve que ce n'est pas des simples liens, c'est quand même des liens d'attache.
Sincèrement, c'est le métier de professeur. C'est-à-dire que quand vous êtes professeur avec des enfants qui sont en grande difficulté scolaire, soit qu'ils soient en refus radical, soit qu'ils soient en échec intellectuel, donc qu'ils se considèrent comme des imbéciles, etc. Tout ce que vous avez à leur transmettre, tout ce que vous savez, y compris ce que vous savez par cœur, la poésie, que vous savez le théâtre, tout ce que vous savez, qu'ils aient simplement envie de vous fréquenter en tant que professeur à travers ces textes-là, vous devez les incarner pour eux. Le texte, c'est un peu comme... C'est un travail qui leur propose une régression d'une certaine façon. C'est exactement comme si vous les transformiez tout d'un coup en petits-enfants que la maman rassure le soir en leur lisant une histoire au pied de leur lit. Voilà. Ils arrivent, c'est des brutes, ils veulent tout casser. Quelquefois, ils vous le disent, rien à battre, je m'en bats les couilles, etc. etc. Et puis, qui est-ce qui n'aime pas lire? Ouais, moi, j'aime pas lire. Personne n'aime lire. Montre-moi, puisque vous n'aimez pas lire, je vous lirai. Et à partir de là, ils sont quand même tous presque sans exception, sensible à la littérature sous quelque forme qu'elle soit, que ce soit le théâtre, la poésie, le roman, dès qu'on les pose, dès qu'ils arrivent à se poser et qu'on leur lit quelque chose de, soit de palpitant dans le domaine de l'anecdotique, du roman, etc., soit de bouleversant dans le domaine du dialogue immédiat. Vous leur lisez l'Antigone de Sophocle, vous leur avez dit qui est cette fille, à quoi ressemble son environnement politique, etc. Vous avez immédiatement une attention qui s'installe, qui est très souvent, qui est au début souvent une attention mal à propos. C'est-à-dire que c'est pas une attention intellectuelle, c'est une attention de suspense comme ça qui s'installe. On commence par là, et puis petit à petit, en affinant leur propre compréhension, vous affinez votre propre lecture, et on commence à parler de choses sérieuses, du pouvoir, etc. Et ça vaut pour tout ce genre de texte, pour L'étranger de Camus, par exemple. Ils sont merveilleux, d'une certaine façon, parce que dès qu'ils vous écoutent, et qu'ils n'ont plus d'inhibition, ils vous écoutent. J'avais une gamine, une vraie sauvageonne, comme aurait dit l'autre, hein, donc on faisait L'étranger de Camus, et puis tout d'un coup, elle me dit... évidemment, L'étranger de Camus avec l'explication, l'absurde, bon, etc., la colonisation, le meurtre de l'Arabe, enfin bref, tout ce qui constitue L'étranger de Camus. Et tout à coup, la gamine qui lisait ça absolument au premier degré dit « Tout ça, c'est des conneries. » Je dis « Comment ça, c'est des conneries ?»« Ouais, c'est pas Meursault, s'il est comme ça, c'est pas pour tout ça. Ça, c'est des conneries d'un télo. » Je dis « Ah bon ? Alors, et pourquoi est-il comme ça ?» Il dit « C'est la faute de Marie. » Marie, c'est la copine de Meursault. Il dit « Oui, c'est une conne. » « Ah bon ? Et à quoi tu vois ça ?»« Non, mais je vous dis ça, je ne la connais pas. Mais moi, mettez-moi un Meursault dans mon lit et il n'en sortira pas pour aller tuer un arabe sur la plage. » Extraordinaire, extraordinaire. Et là, le prof, comment doit-il réagir ? Qu'est-ce qu'il pense ? Il dit « Voyons, cette fille est tout à fait à côté de la plaque. » C'était évidemment pas un angle analytique intéressant. Et pourtant, la réaction... est très, très, très riche. D'abord qu'on ait une gamine de 16 ans qui s'imagine effectivement qu'elle va mettre les hommes au monde en les mettant dans leur lit, c'est déjà en soi merveilleux. Et ensuite, le professeur se dit immédiatement, cette fille, ça va, elle n'a pas de problème. Elle n'en aura plus. Il va se passer quelque chose de très intéressant dans sa vie. Et c'est assez fréquent.
Et quand vous écrivez vos textes, je parle de votre travail littéraire, votre travail d'écrivain, les relectures de vos textes, si vous faites des relectures à voix haute, vous êtes plutôt du genre à faire des relectures de vos textes à voix haute, vous avez besoin de les entendre.
Puis il y a une oralité mentale aussi. Ça, c'est ce que Flaubert appelait le gueuloir. Ou alors je le fais lire par quelqu'un d'autre, pas souvent depuis... près de,
vous l'écoutez.
De 40 ans, ma femme, quand j'ai un doute, je dis, tu peux me lire ça ? Et comme c'est une très bonne lectrice, partout où elle achoppe, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche stylistiquement, en effet. Ça, c'est assez frappant.
Justement, quand on vous lit, on a cette impression très présente et très agréable, au demeurant, que vous vous adressez au lecteur au plus près de lui. C'est une littérature qui a ses exigences. Il y a un air familier, une sorte de proximité entre auteur et lecteur. On a l'impression que quand on lit les textes de Pennac, on est au plus près, on a l'impression qu'il nous parle de plus près. Et je me suis toujours demandé d'où ça vient, pourquoi cette sensation qu'on a, même dans les endroits où il y a une exigence littéraire qu'il faut relire pour saisir des choses. Je ne sais pas si on vous a déjà parlé.
Oui, on m'a dit ça. Mais c'est une intention première assez consciente. Quand j'écris, je m'adresse à quelqu'un. Je ne me le représente pas. Ce quelqu'un à qui je m'adresse. Mais je sais qu'il y a quelqu'un à qui je m'adresse le plus directement possible. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie, non pas à convaincre des gens de quoi que ce soit, mais à les installer dans une position où ils peuvent acquérir du savoir, des opinions, en douceur, quoi. Pas de façon, j'essaie de pas être dogmatique. C'est séduisant la culture. Ça veut dire que tout, tout est prodigieusement attirant, enfin, c'est mystérieux, habitable. Enfin.
Vous avez joué et vous avez parfois laissé une place dans vos livres et vous avez parlé aussi de Barthélemy, d'Herman Melville, personnage vieux d'un siècle et demi. J'ai cette impression que vous êtes tellement concerné par ce personnage et que vous avez décidé de prolonger sa vie par des moyens multiples. Même dans vos textes, même dans votre texte, mon frère, qui sera à l'affiche au Théâtre du Rond-Point de fin mai à fin juin prochain, il est tout autant question du copiste de Wall Street que de votre propre frère. Pourquoi, aujourd'hui, vous revenez dessus ?
C'est-à-dire que la plupart des personnages en littérature, s'ils sont devenus des personnages littéraires, s'ils sont quelquefois même devenus des mythes fondateurs, c'était parce qu'ils étaient désirants. Ils voulaient quelque chose. Ils voulaient du pouvoir, voulaient du sens, voulaient ce que vous voulez. Et dans tous ces personnages littéraires, il y a une famille qui m'intéresse beaucoup, qui sont précisément les non-désirants. Ceux qui ne veulent rien. Et qui n'éprouvent pas même le besoin, qui n'éprouvent pas même le désir de donner une explication sur le fait qu'ils ne veulent rien. Alors évidemment, Barthélemy est l'archétype de tous ces personnages, puisque c'est ce... il est copiste chez un notaire de Wall Street. Alors il écrit des copies, il écrit des qui sont vraisemblablement des textes de droit. Et évidemment, les copistes étaient les ancêtres de nos photocopieuses. Donc il fallait, une fois qu'ils avaient copié leur texte, qu'ils le comparent avec le texte qu'avaient copié leurs collègues pour qu'il n'y ait pas d'erreur, que ce soit exactement les mêmes textes. On appelait ça collationner les textes. Et lorsque le notaire demande à Barthélemy, pour la première fois, de collationner son travail avec celui de ses camarades, Barthélemy répond « I would prefer not to ». Je préférerais pas. Quand vous jouez Barthélemy, je l'ai joué 150 fois. Les réactions sont toujours les mêmes. Le public se marre. La première fois que Barthélemy dit « I would prefer not to », le public rigole. Il rigole parce que c'est Guignol. Guignol cogne sur le patron. Le patron demande quelque chose et Guignol dit « Je préférerais pas ». Très bien. Et puis, comme il ne dira pratiquement rien d'autre pendant toute la nouvelle de Melville et pendant toute la pièce, si on adapte cette nouvelle, les rires changent de nature. Et finalement, les gens ne rient plus. Parce que ce n'est plus seulement sur le patron qu'on cogne, c'est sur eux aussi, c'est-à-dire sur leur désir de comprendre. Très vite s'installe le désir de comprendre pourquoi ce personnage répond à tout « je préférerais pas ». Sans être agressif, hein, il répond très tranquillement « je préférerais pas ». Et petit à petit, le lecteur et le spectateur se sent intimement agressé par ce refus soft et implacable en même temps. C'est évidemment passionnant. Et le notaire est le premier dans le Barthélemy de Melville à essayer de comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un notaire ? Un notaire, c'est un type qui sait absolument tout sur tout le monde. Beaucoup plus qu'un curé, beaucoup plus qu'un imam, beaucoup plus qu'un rabbin, beaucoup plus qu'un psychanalyste, beaucoup plus qu'un contrôleur du fisc. Il sait tout. Le notaire. Il a autour de lui, dans ses archives, les morts, dont il sait tout, et il a devant lui les survivants qui viennent s'installer devant lui pour réclamer leur dû, ou pour fabriquer, je ne sais pas, des sociétés écrans, pour lui poser des questions de gestion, etc. Il sait tout. Et il sait, parmi ce tout, le résiduel de ce tout, c'est du désir. Le client du notaire, c'est le désir. Tous veulent quelque chose. Tous les morts ont voulu quelque chose. Tous les survivants qui débarquent veulent quelque chose. Tout le monde veut quelque chose. Et tout d'un coup, débarque dans son étude un type qui ne veut rien. Et qui veut rien à un point tel qu'il ne veut même pas expliquer pourquoi il ne veut rien. C'est une famille de personnages dans la littérature. Le Meursault de Camus, dont on parlait tout à l'heure, ou L'homme qui dort de Pérec, ou des personnages de Beckett. Et ce non-désir m'intéresse en tant qu'il provoque une curiosité qui, elle aussi, m'intéresse. Le notaire est un personnage passionnant. Les stratégies que met en place le notaire pour comprendre ce Bartleby qui refuse de se comprendre sont absolument passionnants. C'est un personnage fabuleux, le notaire.
Et le tout se passe dans un texte quand même pas très volumineux. Il n'avait pas besoin, Melville n'avait pas besoin de 500 pages.
Pour... C'est une nouvelle. Ouais. C'est une nouvelle et c'est intéressant parce que la chose intéressante, c'est que le... Ça, bon, il écrit ça en 1853 à peu près, en août. Et Bartleby, sous sa plume, dit « I would prefer not to ». Je préférerais pas. Et dès que Bartleby dit « I would prefer not to », on n'entend plus parler de Melville pendant un siècle, d'un point de vue romanesque. Moby Dick, tout, plus rien. Il écrit, 30 ans plus tard, il écrit Billy Budd. Il meurt avant la fin. Billy Budd n'est pas publié. Il sera publié 30 ans après. Il ne sera pas lu. Et 30 ans plus tard, il faudra que les surréalistes redécouvrent Melville. Autrement dit, à partir du moment où Bartleby dit « I would prefer not to », il y a un silence qui s'abat sur Melville pendant un siècle.
Et du coup, ce personnage, c'est un grand thème pour les philosophes. Il y a énormément d'exégètes qui se sont penchés sur ce cas. La psychologie, notamment la psychanalyse. Il y a tout, même en politique, les mouvements, c'est une... à sa réhabilitation plus tard, un siècle plus tard, comme vous dites, et qui devient la figure du dissident par excellence, surtout les gens qui luttent contre le capitalisme, bien contre sûr, la oui. domination justement de ce travail, de la vie burale, en fait, c'est la figure de tous les déclassés de la bureaucratie.
Oui, et on en fait d'autant plus ce qu'on veut comme symbole qu'il ne signifie rien. Lui, signifie rien. Il dit « I would prefer not to », c'est tout. Mais c'est à ce point radical dans sa propre vie, parce qu'il en meurt quand même, qu'il va devenir le symbole de toutes les oppositions actives, passives, radicales, alors qu'il n'a rien dit, il n'a pas expliqué. En réalité, on ne sait rien de rien. On ne devrait pas être possible de le récupérer. Il est irrécupérable puisqu'il ne manifeste aucune intention.
Et que souvent dans la littérature, on retient des personnages, des tirades fameuses ou des discours ou une parole, quelqu'un qui a dit quelque chose, qu'on retient pour toujours. Et là, cas unique, c'est un silence qu'on retient.
Oui. Et une phrase, cette
phrase. Une phrase et puis silence.
Qui en anglais est très étrange d'ailleurs. « I would prefer not to », elle n'est pas traduisible en français. Et du coup...
Que certains traduisent « je préférerais ne pas ».
Léris, moi j'avais pris la traduction de Léris, dans une première version il avait écrit « je préférerais ne pas ». Et dans une deuxième il a oralisé en disant « je préférerais pas ». Mais d'autres traducteurs vont traduire par « j'aimerais mieux pas » ou « je préférerais ne rien faire » ou enfin tout le monde essaie d'avoir la traduction originale de cette expression anglaise « I would prefer not to » qui n'est pas en elle-même traduisible directement en français.
Maintenant que vous êtes dans les griffes du théâtre depuis un certain temps déjà, avec ces expériences qui se succèdent, est-ce que aujourd'hui on peut dire il y a une méthode Pennac dans le travail avec les metteurs en scène, dans vos relations avec les gens qui, les artistes qui montent vos textes, est-ce que vous êtes dans la catégorie des interventionnistes ou des auteurs distants, autrement dit ceux qui laissent les metteurs en scène?
Non, c'est encore disposer. Autre chose. Nous nous constituons... Enfin, je travaille essentiellement avec Lara Bauer, qui fait autre chose que de travailler avec moi, mais qui, c'est ma metteuse en scène, et avec notre troupe. Donc, du coup, beaucoup de choses se décident sur le plateau. Par rapport à l'adaptation première, beaucoup de choses se décident sur le plateau, assez collectivement, je dois dire. Non, c'est une espèce de une liberté de création qui est bon avec des principes de base qui sont très ça, en réalité le plateau est vide à peu près toujours. Clara Bauer a d'abord travaillé avec Mnouchkine et ensuite avec Peter Brook, donc on n'est pas dans l'encombrement des accessoires. Mais nous tous, une fois rassemblés, chacun a souvent son mot à dire. Bon, elle tranche. Bon, il y a aussi une adaptation préalable. Mais cette adaptation préalable n'est pas suivie au pied de la lettre. Et même de session en session. Quand je vous ai dit que au Piccolo Streller de Milan, nous avons fait un brouillon. Nous avons donné notre spectacle sur Fellini pratiquement en tant que brouillon. Là, nous avons donné mon frère au Mans pratiquement aussi à l'état de brouillon. Et on le retravaille sans cesse. Et il va trouver sa stabilité au mois de mai, chez vous, au rond-point. Là, il va commencer à se stabiliser vraiment. Mais jusqu'à présent, on l'a déjà joué en Italie, on l'a déjà joué au Mans. C'était toujours sensiblement différent.
Vous parliez tout à l'heure d'un collectif d'artistes qui ont des origines, des provenances différentes, et qui se rencontrent autour de ce travail. On peut dire aujourd'hui que vous avez mené une vie de compagnie qui est en train de l'essence du théâtre.
Oui, on a une compagnie, en effet, qui est assez... nous, des Français, des Italiens, un Catalan, un Malien, un Indien, deux Indiens, un Congolais, des Belges, tout le monde est là. Et on s'en porte bien, oui.
Prendre reconstituer Babylone, peut-être, on peut rêver, c'est pas une idée du passé, c'est une idée d'avenir.
Si vous faites ça, vous savez, vous avez les foudres du bon Dieu qui vous tombent sur la tête. Hein.
Ouais.
On
n'aime
pas beaucoup ça.
Bon.
Mais oui, mais plus la troupe se diversifie, plus ça me plaît, oui. Bon, c'est d'ailleurs pas volontaire, c'est parce qu'on tombe sur une excellente comédienne napolitaine. Bon, elle est excellente, elle est napolitaine, elle aime notre travail, elle joue avec nous. On tombe sur une indienne, bon, enfin c'est pareil, c'est des gens qu'on rencontre au hasard de nos déplacements et qui, s'intéressant à ce qu'on fait, suivent la caravane.
Et vous serez sur scène encore une fois?
Oui, au mois de mai, au rond-point, on joue donc Mon frère, qui s'intitulera d'ailleurs Bartleby, mon frère, et qui est en effet un côte à côte entre ces deux personnages, une personne réelle, mais que j'ai tant aimé qu'il est devenu, ce frère, presque pour moi un personnage affectif, et Bartleby, auquel il ressemblait beaucoup. Et donc voilà, les deux sont sur scène dans une... Pour vous le pitcher, comme on dit aujourd'hui, on tourne un film sur Bartleby. Et un journaliste malien vient faire un reportage sur ce tournage. Et ce journaliste malien vient de la bibliothèque de Tombouctou. Vous connaissez l'histoire merveilleuse de cette bibliothèque de Tombouctou. Pour aller vite, lorsque Tombouctou a été envahi par des fous de Dieu... La bibliothèque de Tombouctou, qui est une des grandes bibliothèques d'Afrique.
Qui est un patrimoine de l'humanité.
Le patrimoine. Et on a vidé cette bibliothèque. Les bibliothécaires, les lecteurs, les habitants de Tombouctou.
Les habitants de Tombouctou.
Ont vidé cette bibliothèque et ont enterré les livres dans le désert. Et quand, après que la guerre a été finie et que Tombouctou a été rendue à elle-même, ils sont allés déterrer les livres pour les remettre en place. Et un de nos personnages tombe, parce que cet enterrement, tout ça est vrai, c'est-à-dire que les manuscrits les plus fragiles étaient enterrés au plus profond, et ils étaient recouverts de quantités de bouquins normaux, y compris nos livres de poche. Et lorsque notre personnage, Habib Dembélé, déterre les livres, premier bouquin sur lequel il tombe, c'est Les Contes de la Véranda d'Herman Melville. Il ouvre Les Contes de la Véranda, et il tombe sur Bartleby. Et ayant lu Bartleby et apprenant qu'une de ses copines belges est en train de tourner un film sur Bartleby, il vient faire le reportage radio, comme vous le faites avec moi, de ce tournage. Et voilà, et c'est ce que nous racontons.
On a très envie de finir avec Ali Farka Touré. Ça nous fera du bien. Merci beaucoup, Daniel Pénac.
Merci à vous.
À bientôt pour de nouveaux rendez-vous. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à partager.